parler.
L'idée de cette chronique date d'il y a quelques mois. L'idée alors était de revoir mes lectures de science-fiction sous le prisme de la résistance, voir en quoi ces récits donnaient un angle et une force pour les résistances actuelles. Le contexte depuis a changé, mais pas l'intérêt d'une telle démarche. Alors d'abord, qu'est-ce qu'on englobe sous le terme de SF ? Comme souvent, dans la pop culture, il y a des discussions sans fin sur les frontières du genre, est-ce qu'on y intègre les mondes imaginaires de Swift ou de Jules Verne ? Ou sur ses règles, est-ce que les lois de la science doivent prévaloir, ce qui éliminerait les space fantasies comme Star Wars ? Pour moi, ce genre, c'est une porte d'entrée magistrale vers la littérature pour des esprits scientifiques. J'entends par là ceux qui ont essayé de comprendre la matière avant de comprendre les gens. J'aime voir la science-fiction en tant que genre littéraire et cinématographique comme une façon de prendre la société, la psyché humaine, et de la déposer dans une éprouvette, un bac à sable, et de faire varier une donnée de base, d'introduire une perturbation, pour voir les schémas qui vont naître, les nouvelles passions, inégalités, tragédies, les nouvelles questions morales et les nouvelles résistances. La perturbation introduite peut être une bifurcation de l'histoire, par exemple la Seconde Guerre mondiale remportée par l'axe germano-japonais. C'est le sujet traité par Philippe K. Dick dans son uchronie « Le maître du haut château ». On se retrouve dans les années 60 où la défaite a été encaissée, digérée, transcendée, et où les Américains comparent la grandeur et le raffinement de leur maître, selon qu'ils soient du côté japonais à l'ouest ou nazi à l'est. La résistance ne s'envisage pas alors de la même façon 20 ans après l'invasion, quand il n'y a plus de retour en arrière possible. Mais y en a-t-il jamais un ? Plus proche du présent, la perturbation peut être l'émergence d'une espèce extraterrestre ou d'un virus mortel qui va précipiter les crises en gestation et obliger nos héros à se réinventer, à se servir de nouvelles règles du jeu, pour réinventer le monde. Dans ce cas, inutile de chercher un exemple dans la science-fiction. Cette perturbation, enfin, peut être l'introduction d'une technologie qui va changer les règles du jeu, parce qu'elle supprime les limites du temps, de l'espace, parce qu'elle permet de vivre indéfiniment. Certains pourront en profiter, pas les autres, ce qui crée une lutte et un creuset romanesque. Dans son roman Ubik, écrit en 1969, Philippe K. Dick imagine un procédé pour maintenir les morts en suspens et les réveiller de temps en temps pour dialoguer avec eux et leur demander conseil. Alors dans ces nouveaux paradigmes technologiques se pose la question très actuelle de qui doit maîtriser les clés d'une technologie dès lors que cette technologie est assez puissante pour asservir ou transfigurer l'humanité. C'est le cas quand on parle de réseau global d'information, d'intelligence artificielle, de bidouillage génétique, de bombes atomiques, de robots tueurs, de voyages dans le temps. Bon, peut-être que dans ce dernier exemple, ça n'existera que dans les livres. Est-ce que les clés de ces technologies doivent être dans les mains des universitaires, des gouvernements, des corporations, des citoyens ? Et si personne ne se met d'accord finalement ? Est-ce qu'il ne faut pas mieux appuyer sur le gros bouton rouge et détruire la machine ? Bon, j'ai cherché dans mes lectures récentes des exemples ou des modèles de résistance. Ce sont aussi des univers passionnants dans lesquels on se réfugie presque honteusement. Alors il y a Dune d'abord, de Frank Herbert, qui se passe sur la planète maudite de Arrakis au 27e millénaire. Et ce roman est le chaînon manquant entre le Lawrence d'Arabie et Star Wars. On s'attache au sort d'un jeune patricien qui se retrouve dépossédé de son destin princier et se retrouve en guérilla aux côtés d'un peuple du désert, les Fremen. Le héros a passé toute une vie à se préparer pour le pouvoir, pensait-il, mais en réalité pour la fuite et la résistance. Une résistance un peu idéalisée dont on retrouve toutes les composantes. La vision, puisque le héros a des visions de mort et de djihad bien antérieures à son entrée en résistance. La vengeance, qui lui permet de terminer le deuil de ce qu'il a perdu. L'urgence également, plus nous attendrons, plus nos ennemis seront prêts. Et puis la maîtrise de soi. Je ne connaîtrai pas la peur, car la peur tue l'esprit. Pour second exemple, j'ai la suite des romans Les Chants d'Hyperion, de Dan Simmons, qui offre une autre perspective sur l'évolution technologique de l'homme. Là aussi, on est loin en avant après la conquête spatiale. Les civilisés ont alors conquis l'espace et ont établi un réseau de communication, le RETS, en concluant un pacte faustien avec les machines. Et ils mènent une guerre politique et à mort contre des barbares, les extros. Ces extros vivent en orbite et ils ont transcendé leur corps en s'adaptant à la vie dans l'espace. Le groupe de héros fait ce cheminement moral entre les deux modèles et se pose la question, qu'est-ce qui fait de nous des humains ? Est-ce le fait de vivre en réseau, même si ce réseau parasite le libre arbitre ? Ou bien l'adaptation, même si elle réclame de modifier notre génome ? Dans les deux cas, il faut tuer Dieu le Père et on n'a pas le choix. Nous les traitons de barbares alors que c'est nous qui nous accrochons, timorés, à notre rets, comme les Visigoths tapis parmi les ruines de la splendeur fanée de Rome. Et c'est nous qui nous proclamons civilisés. Choisir ce qu'on veut du passé pour en faire notre essence, notre raison d'être, c'est là le premier pas de la résistance. Je voudrais enfin revenir sur le présent, et sur l'importance stratégique qu'a la fiction dans les destins qui se dessinent en 2020. Le dernier hors-série de la revue Social Terre, portant sur les imaginaires, m'est tombé dans les mains il y a quelques semaines, et j'y ai appris que les États et les entreprises ont constaté le caractère autoréalisateur de la SF, puisque c'est là la première inspiration des ingénieurs qui façonnent le monde pour les GAFA. et ces États et ces entreprises s'en servent aujourd'hui comme outil pour assurer leur survie. Depuis l'après-guerre, on avait recours à des prospectivistes, des scientifiques qui tiraient des traits partant du présent, sans vraiment se soucier de la cohérence de leur destination, et dont le travail était obsolète dès lors qu'il était terminé. Alors les grandes puissances militaires et les groupes pétroliers se sont mis à recruter des auteurs, des littéraires, parce qu'ils construisent des possibles beaucoup plus cohérents, donc plus robustes. On a alors un double problème, de but d'abord, puisque les empires se servent des imaginaires littéraires pour assurer leur survie, qu'auront les peuples en face à leur disposition pour assurer et défendre leur bonheur. Et ensuite, on a un problème de définition. La science-fiction met la technologie au cœur de ses récits, et donc elle conditionne nos avenirs à la technologie plutôt qu'à la vie. Quand on pense que les artisans des GAFA se sont inspirés de ces univers sans prendre le recul nécessaire, forcément, cela risque de nous mener à un techno-univers, finalement à l'avènement de cette dystopie où le vivant se retrouve écrasé par la machine, machine que l'homme destinait à lui soulager le corps et le cerveau. En réponse à ce problème de définition, ce cher Alain Damasio, toujours dans Social Terre, invoque une guerre des imaginaires, qui devrait avoir lieu entre cette vision impérialiste qui assimile et surfe sur les récits catastrophistes, l'effondrement, le transhumanisme, et une vision plus ouverte, plus locale mais aussi plus consciente, privilégiant la vie sous toutes ses formes avant la science. Cette nouvelle fiction spéculative, appelons-la comme ça, doit penser le monde d'après sans s'enlever les moyens d'agir dans le monde d'aujourd'hui. Elle doit dépasser la vision linéaire du progrès, dépasser également les dystopies, et imaginer qu'un bonheur est possible dans les effondrements. Créer des archipels au cœur de l'Empire.